grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Nous vivons une confusion des âges. Pour l'un de nos invités, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, le dérèglement des âges se laisse voir dans de nombreux traits de notre époque, l'ébranlement de la figure adulte, l'aspiration frénétique à l'éternelle jeunesse, et de noter que même si les seuils d'âge sont moins nets et fixes qu'auparavant, ils persistent. Des seuils d'âge moins nets et fixes qu'auparavant, illustrés par les quinquados, ces nouveaux quinquagénaires, plus nombreux que jamais, actifs et en bonne santé, et qui se réinventent au milieu de leur existence en vivant une seconde adolescence avec la maturité en plus. Qui sont ces quinquados, ni vieux beaux, ni fausses jeunes? À quoi ressemblent-ils? Quel est leur portrait robot? Est-ce une énième invention marketing? Qu'est-ce qui différencie les quinquagénaires des années 2010 de ceux des générations précédentes? Quelles leçons peuvent-ils donner aux plus jeunes et aux plus vieux? Pour nous éclairer, ce matin, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot et le sociologue Serge Guérin. Si vous ressemblez à l'un de ces nouveau quinquagénaire, contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et si vous ne vous reconnaissez pas du tout, manifestez-vous également. Elle est loin d'être une quinquado. Marie Robert, bonjour.
J'ai encore un peu de marge.
Voilà, que vous inspire notre menu du jour dans votre petite philosophie de la vie quotidienne?
Eh bien, je vais justement vous parler d'un quinca célèbre.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Serge Guérin.
Bonjour Ali.
Vous êtes sociologue et consultant, expert des enjeux du vieillissement de la population, de l'intergénérationnel et de la solidarité. Et vous venez de publier chez Calman Lévy les quinquados. Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne, président du Collège de philosophie. Et on vous doit Philosophie des âges de la vie, disponible en poche et pluriel. Dernier ouvrage paru, Comment gouverner un peuple roi, totalement d'actualité. Serge Guérin, c'est quoi exactement un quinquado? C'est une réalité sociologique ou bien une invention marketing pour publicitaires en manque de catégorisation?
Alors les publicitaires en manque de catégorisation, qui sont toujours en manque de catégorisation, ont inventé les juniors, ce qui est assez laid comme
c'est
terme, hein, on est bien d'accord. Et donc du coup les quinquados, je dirais que c'est à la fois des gens qui ont juste pris conscience d'une chose, c'est qu'on allait vivre plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils voient leurs parents qui ont 85 ans. Ils disent « Waouh !» Donc au cours de la cinquantaine, ils disent « Eh, je suis encore là dans 30 ou 40 ans. » Donc évidemment, ça change un petit peu la perspective. Et si je voulais vraiment résumer, je dirais que le quinquado ou la quinquado, parce que majoritairement ce sont des femmes, ce sont des personnes qui restent jeunes, mais avec l'expérience en plus.
Qui a inventé ce concept? C'est apparu, je crois, en 2013 dans une étude de l'Institut de sondage Ipsos.
Oui, absolument, c'est Ipsos qui a un petit peu parlé de cela. Alors eux, c'était uniquement centré sur les femmes, 45-65 ans. Et puis finalement, le terme est resté un petit peu comme ça en jachère. Puis de temps en temps, je remarquais que ça revenait un petit peu. Et du coup, j'ai fini par y réfléchir un petit peu plus sérieusement en me disant, il y a toute une génération de gens qui arrivent à la cinquantaine. Vous savez, avant, on parlait de la crise de la cinquantaine. Comme d'ailleurs quand on parle de la crise. Ça fait 40 ans que la France est en crise, mais on revient encore sur le mot de crise. Bah, la crise de la cinquantaine, c'est un petit peu pareil. Ça a existé certainement un temps, mais aujourd'hui, je dirais que d'une certaine manière, on est tout le temps en crise. Donc il y a comme ça régulièrement des moments où on est confronté à des changements. Et le quinquado, c'est, on aurait pu appeler ça la génération rebond. C'est quelqu'un qui assez souvent a pu se prendre une claque dans les gencives, à titre personnel, familial, à titre professionnel, par exemple dans l'entreprise. Dès 45 ans, on va vous traiter de senior. Et je reste d'ailleurs deux secondes sur le terme de senior. Les seniors, c'est les 45 à 115 ans. Vous m'accorderez que c'est un peu grand, c'est un peu large. Du coup, c'est dit, les plus âgés, on va les appeler les aînés, c'est un peu le terme qui est le mieux apprécié. Les autres, j'avais fait d'ailleurs un bouquin là-dessus, les silver, la silver génération, un peu les 65-80. Et puis finalement, les autres se dire, les quinquados, ça peut assez bien synthétiser cette nouvelle catégorie.
Contrairement à une première intuition, les quinquados ne jouent pas aux jeunes et ne se complaisent pas forcément dans une adolescence superficielle.
Oui, d'ailleurs, j'ai fait un chapitre, c'est pas des faux jeunes. Je dirais, pour résumer dans nos villes, le faux jeune se reconnaît très bien, il prend la trottinette. Le quinquado, il prend le vélo.
Alors, est-ce vraiment une nouveauté, ce quinquado? On a vu apparaître il y a quelques années la figure de l'adolescent, l'adulte adolescent. Qu'est-ce qui différencie cet adolescent du quinquado?
Le quinquado, il sait qu'il est adulte. Il sait qu'il est parent, par exemple, s'il est parent. Il sait un ensemble de responsabilités qu'il a. Il sait que dans l'entreprise, ça devient hyper dur pour lui d'y rester. Il sait que sa vie, finalement, c'est à lui de la reconstruire ou de la maintenir s'il veut durer après 50 ans. Donc, en ce sens-là, il regarde pas du tout vers le passé en disant « Ah, je veux pas grandir ». Il est parfaitement adulte, il le sait. Simplement, il veut pas reprendre la figure d'adulte qu'on lui impose. D'une certaine manière, il se dit, il y a 50 ans, je vais quand même pas me mettre en pré-retraite.
Votre regard, Pierre-Henri Tavoyot, sur cette notion de quinquado, est-ce que c'est l'expression d'une crise contemporaine de l'âge adulte?
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément qui est immémoriel. Je rappelle que Aristote définissait un sommet de la vie. Il y avait un jeu de mots en grec. La vie, bios, était comme un arc, bios. Et il disait, le sommet de la vie, c'est 35 ans pour le corps et 49 ans environ, j'aime bien le environ, pour l'esprit. Et donc, d'une certaine manière, ce 49 ans ou ce 50, alors 49 ans, ça répondait à une logique physique, philosophique, cosmologique très très précise. Il y avait une science et une philosophie des chiffres et des nombres. Mais ça correspond à quelque chose qui est en effet très très important, qui désigne de façon générale le moment de la maturité. Vous voyez, la maturité, c'est un mot très étrange. C'est-à-dire que quand on n'en a pas, c'est un défaut, mais quand on en a, c'est pas une qualité. Le fruit mûr, c'est le fruit qu'il faut manger avant qu'il ne pourrisse. Et donc, le moment du sommet de l'existence, c'est un moment très, très incertain. Et ça correspond à quelque chose qu'on vit, enfin, ceux qui ont atteint cet âge. Pendant toute notre existence, on a eu pour projet de grandir. C'est ça, le mot adolescent, c'est le mot adulte. L'adulte, c'est celui qui a grandi. Donc, il fallait conquérir une reconnaissance sociale, il fallait avoir un salaire, il fallait avoir une famille, une maison, les apparats de l'adulte. Et puis, à un moment donné, on les a. On les a et on s'aperçoit que ça suffit pas. Voilà. Et le moment de la crise du milieu de la vie, ou le démon de midi, d'ailleurs, qui est un moment très intéressant dans la théologie, le démon de midi, c'est exactement ça. C'est l'idée que, tiens, j'ai grandi, j'ai tout ce dont à quoi j'ai rêvé quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je l'ai, et maintenant ça ne suffit pas. Et donc le phénomène est ancien. La réponse que propose Serge Guérin est la réponse moderne à cette crise du milieu de l'existence, c'est-à-dire effectivement, nous avons des perspectives, nous avons des horizons, et on pourrait dire qu'après avoir grandi, eh bien, on peut s'élargir. Le corps fonctionne comme ça, mais peut-être aussi l'esprit. Et c'est ça le quinquado finalement.
Est-ce que c'est un oxymore de parler de quinquado, d'allier les quinquagénaires avec l'adolescence?
Je pense qu'il y a deux. Alors, on pourrait critiquer un peu la notion, je crois que Serge le fait dans son livre aussi, en disant que oui, quand on est adulte, on n'est pas ado. Voilà, ça c'est clair. Mais en même temps, le mot adulte a une sorte de perspective intéressante. C'est l'idée que l'horizon est ouvert. Et aujourd'hui, c'est même la définition de l'humanisme fondamental. L'humanisme définit l'homme comme perfectibilité, c'est-à-dire qu'on a toujours encore un pas à faire. Encore une fois, pas forcément pour grandir en performance, mais pour s'élargir, pour s'approfondir, pour être attentif aux autres. Donc être adulte, on disait jadis, l'adulte c'est l'homme fait, parce que la femme ne l'était pas d'abord, et puis parce que c'était un moment d'accomplissement. Aujourd'hui on dirait être adulte, ça a quelque chose comme être fait comme un rat, c'est-à-dire être voué une sorte à la fin et déjà avoir un peu les relents de cadavre, ce qu'on veut absolument éviter.
Serge Guérin.
Oui, je crois. Deux choses. Le Aristote qui dit 35 ans pour le physique et 49 ans, c'est exactement ça, parce que nous avons tous rajeuni d'une quinzaine d'années. Quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui ressemble beaucoup plus à quelqu'un qui avait 35 ans, je sais pas moi, en 1959.
La preuve.
Qu'aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, je nous vois tous les deux. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est étonnant. Et j'ai fait souvent le test à des amis, par exemple, qui arrivent à la cinquantaine. Fille ou garçon. Tu montres une photo de ta mère ou tu montres une photo de ton père et à chaque fois, waouh! C'est pas moi, c'est pas possible. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'ont pas le père, mais le grand-père. Donc ça, c'est une réalité physiologique et du coup, que les gens aussi prennent en compte. Et le deuxième élément, en effet, une des choses qui m'a titillé, c'est je dirige un master qui forme des directeurs des établissements de santé. Le nombre de candidats qui arrivaient au-delà de 50 ans, et tous, c'était ou j'ai été mis dehors, je recherche à rebondir, ou bien je cherche du sens. Donc ça veut bien dire qu'autour de la cinquantaine, les gens disaient j'ai coché un peu toutes les cases. Ce que disait Pierre-Henri, c'est voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ce qu'on m'avait dit de faire, et maintenant je veux penser un petit peu plus à moi et à du sens.
Quel est le portrait robot du quinquado, plutôt de la quinquado? Parce que vous débutez votre livre, Serge Guérin, avec le portrait fictif de Françoise, 57 ans. Ça peut-être nous aider à comprendre qui sont ces fameux quinquados.
Oui, alors c'est vrai. Alors Françoise, c'est pas si fictif que ça, parce qu'à l'école de commerce où je suis prof, j'en ai repéré. Et du coup, en discutant, je regardais un peu comment elle fonctionnait. Donc des femmes autour de un peu plus de 50 ans, qui avaient une relation, alors à la fois avec leurs enfants, mais avec les étudiants, incroyable. C'était bien le prof, il n'y avait pas de sujet là-dessus, mais en revanche, mais une capacité à discuter, y compris à prendre en compte les difficultés, par exemple, de vie des étudiants, et qui, elles-mêmes, pouvaient avoir ses propres difficultés. Et en termes d'esthétique extérieure, bah parfois vous aviez vraiment beaucoup de mal à reconnaître qui était la prof, qui était l'étudiante. Parce que c'est des manières de s'habiller assez proches, des silhouettes absolument les mêmes. Donc tout ça faisait que du coup c'était assez étonnant et en même temps, les gens savaient très bien rester dans leur camp en quelque sorte. Je suis bien la prof. Mais pour autant, on se ressemble, on peut discuter, voire on peut prendre une bière le soir et ainsi de suite.
Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, alors le portrait, c'est effectivement un certain, je ne suis pas sociologue, mais il me semble que sur le plan de l'expérience, c'est effectivement très important de noter qu'on entre dans l'âge adulte un peu par ce que Hegel appelle la négativité, c'est-à-dire la résistance du monde. Le jeune, il pense qu'il est immortel, qu'il est tout-puissant, qu'il n'a surtout pas de conseils à recevoir de la part des aînés. Il est dans une espèce d'insouciance, et c'est tant mieux. Je veux dire, il ne faut pas du tout critiquer, c'est vraiment l'âge de l'insouciance, de l'innocence. Même si on peut être inquiet pour l'avenir du monde, pour son avenir, ça c'est le cas. C'est un très bon livre d'Anne Muxel qui s'appelle Politiquement jeune aux éditions de l'Aube, qui fait un portrait remarquable de la jeunesse aujourd'hui. C'est très très intéressant. L'adulte, c'est celui qui rentre dans l'adversité, c'est-à-dire qui a pris conscience de ça, mais au lieu de s'en désespérer, il s'en forge. Et on sait qu'on ne comprendra jamais totalement le monde. On sait que il y a des accidents qui peuvent nous arriver. Mais au lieu de partir dans une vision pessimiste et négative, eh bien, on se sert de tout ça pour rebondir.
Marie-Robert.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant dans l'usage du terme même adolescent et qu'un cadeau, c'est cette idée d'âge transitoire. Aussi bien les adolescents entre l'enfance et l'âge adulte, et justement les quinquas entre une forme de jeunesse et à devenir senior. Donc il y a aussi ce partage. Et ça, c'est très juste quand vous le disiez, quand vous l'évoquiez pour les profs. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu justement des profs quinquas. Bon, il était plus jeune à cette époque.
Pierre-Henri
Tavoyot était mon professeur.
Wow.
Mais c'est surtout ce partage, en fait, de moments de transition. Et donc la compréhension est là, puisque c'est un âge où les choses ne sont pas figées, ni dans l'adolescence, sens, ni chez les quinquas. C'est cet entre-deux de la vie qui est intéressant.
Allez, si vous vous sentez quinquado, si vos parents ou vos enfants le sont, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan, Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
Léo Ferré, joli môme.
Non mais écoute ma chérie, te fais pas de soucis pour moi, hein. Moi ça va aller très bien.
Grand bien vous fasse.
S'il a envie de piquer sa crise d'adolescence à 50 ans, mais qu'il le fasse, on va le laisser faire. Ça va me faire un bien fou d'être toute seule, je vais faire un point. Je suis tout à fait...
sur France Inter.
10h21 et on s'intéresse ce matin au quinquado avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyot et le sociologue Serge Guérin qui publie donc un ouvrage consacré au quinquado. Serge Guérin, selon l'INSEE, il y a en France près de 9 millions de cinquantenaires et environ 26 millions de 50 ans et plus. C'est pas une population homogène, les cinquantenaires. Ils sont surtout issus des classes moyennes supérieures, cultivées et urbaines, ou est-ce que c'est schématique de dire ça?
Non, la réalité quand même, c'est qu'un quinquado, pour être une génération rebond, faut avoir de quoi rebondir. Par exemple, il est plus facile de refaire des études si déjà vous en avez faites. C'est le système qui veut ça. Donc c'est vrai que globalement, les quinquados sont plutôt des gens qui vivent dans les grandes villes et plutôt des gens qui ont déjà un niveau de formation. Mais si je reprends par exemple l'exemple de mon master, j'ai énormément d'étudiantes qui sont infirmières par exemple. Alors c'est un vrai diplôme et un diplôme hyper reconnu, mais en même temps, c'est pas non plus des cadres supérieurs. Et donc parfois des femmes seules, par exemple, et ainsi de suite, et qui vont se relancer parce qu'elles se disent « je n'ai de toute façon pas envie de subir ». C'est un petit peu ça le quinquado, donc il y a aussi cette notion de personnalité. Il y a aussi quelque chose dans la personnalité qui rend capable de se projeter dans l'avenir, et encore une fois, de pas attendre, parce que souvent on vous dit autour de la cinquantaine « c'est fini, professionnellement, bon, allez, attends la retraite ». Sauf que la retraite, elle est dans plus de 15 ans maintenant. Et puis aux femmes, on leur dit « non, tu peux plus faire d'enfants, tout ça, tu devrais rester dans ton coin ». Et ces femmes et ces hommes disent « non, j'ai envie de séduire, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de rebondir, j'ai envie de vivre ».
Serge nous dit par courriel « à 40 ans, j'étais quadrado, aujourd'hui je suis un quinquado, vivement mes 60 ans que je devienne un sexado ». Plus sérieusement, François Sagan exprimait cette idée. Il y a des gens qui naissent jeunes et d'autres qui naissent vieux. Et le quinquado, il est dans une sorte de continuité de la jeunesse.
Oui, absolument, d'une certaine manière. Sans être jeuniste, c'est ça le truc. C'est qu'on est dans une société qui va survaloriser la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'elle aime les jeunes nécessairement, mais en tout cas, elle va survaloriser tout ce qui serait associé à la jeunesse. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de nouveau monde ou de choses comme ça. Et les quinquados, c'est des gens qui à la fois subissent cette pression, les femmes encore plus que les hommes, mais qui, au lieu de se dire ah, « je peux rien faire, il faut que je me cache, je ne vais pas m'en sortir », qui se disent « je vais faire autre chose » en assumant à la fois mon âge, mais en n'assumant pas tout le dictat qui serait associé à mon âge.
Oui, parce que la figure du quinquado exprime l'idée que l'âge ne doit pas dicter la conduite des personnes qui s'en revendiquent.
Mais oui, d'une certaine manière, l'âge ne veut rien dire. Quand vous demandez à quelqu'un, ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il va faire, mais à la limite, son âge, vous n'en avez rien à faire. Il y a des gens qui, à 20 ans, ont aucun projet. Il y a des gens qui, à 80 ans, ont plein de projets.
La conviction chevillée au corps des quinquados, ce sont ces paroles d'Alain Souchon, « rien, rien, rien ne vaut la vie ».
Absolument, d'ailleurs je l'ai mis en épigraphe du bouquin parce que c'est un des plus beaux trucs qui soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je profite de cette vie quoi. Et j'ai la chance de vivre à un moment donné où mon espérance de vie est plus longue qu'auparavant et j'ai la chance de vivre à un moment donné où au même âge, je suis entre guillemets plus jeune qu'auparavant. Qu'est-ce que je fais? Je me plains? Je subis? Ou au contraire, je crée?
Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, c'est ce qui distingue au fond vraiment les sociétés traditionnelles et les sociétés contemporaines. C'est-à-dire les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, l'âge nous faisait. C'est-à-dire, il nous donnait une identité, d'ailleurs comme le sexe, comme le statut social. Et à l'égard de cette identité, la marge de manœuvre était ultra mince. Il y avait des grandes phases d'existence et des petites transitions, ce qu'on appelait les rites initiatiques, les rites de passage. Le vrai changement sur les âges, c'est pas qu'on les vit plus, c'est pas que les âges ont disparu. Le vrai changement, c'est que nous vivons des petite phase et des grandes transitions, d'une part, et que nous faisons l'âge. Pas totalement, malgré tout, mais nous avons une marge de manœuvre plus importante par rapport à l'âge. Les seuils demeurent. Par exemple, le seuil d'entrée dans l'âge adulte, il reste assez stable et assez clair. C'est grosso modo l'autonomie financière et l'autonomie affective, savoir aimer et travailler, disait Freud. Non pas forcément en même temps, mais de front. Voilà, c'est comme ça qu'on commence l'entrée dans l'âge adulte. Mais l'âge auquel cela arrive, ça c'est moins évident. Et ça c'est une question qui est très intéressante à poser, et peut-être aux téléspectateurs. Est-ce que vous vous sentez adulte d'abord? Et à quel âge vous êtes-vous senti adulte? Quelle est l'expérience marquante? C'est pas la majorité, c'est pas l'électorat, mais ce sont toujours des expériences marquantes, douloureuses ou joyeuses, qui marquent cette entrée dans l'âge adulte.
Bonjour Sophie, vous appelez de Rouen, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors est-ce que vous vous sentez qu'un cadeau vous?
Oui, alors écoutez, ce matin, je vous écoute, merci, bravo pour toutes vos émissions,
merci.
Et je vous écoute, et je ne connaissais absolument pas ce terme. J'ai réfléchi un moment, et je me suis dit, écoutez, peut-être que j'appartiens à cette catégorie, car il y a quelques années, j'ai 56 ans aujourd'hui, et il y a 2 ans, j'ai voulu commencer avec mon fils. J'adore danser depuis que je suis toute jeune, mais il a commencé de la danse urbaine de la house. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas quelque chose d'intéressant à faire ensemble, mm-hmm. déjà? Mais bon, c'est vrai que là, je me suis dit, allez, allons-y, j'y suis allée, et vraiment, j'ai accroché, j'ai vraiment adoré, bien sûr, j'étais la plus âgée, ça ne m'a pas absolument pas gênée, j'étais un petit peu regardée, c'est vrai que les gens se demandaient, mais comme j'ai tenu le coup, et que j'ai même été jusqu'au spectacle de fin d'année, en fin de compte, voilà, j'étais ravie de faire cette activité avec mon fils, qui malheureusement a dû arrêter, il a été blessé au sport. Mais j'ai continué jusqu'à la fin et voilà.
Les jeunes sont fragiles.
C'est le fils qui a craqué.
Cette danse qui me paraissait être quelque chose un peu de plus de ma génération, étant donné que chez moi c'était plutôt le rock'n'roll. Mmh.
Je vais vous poser une question un peu pompeuse, hein, Sophie. C'est quoi votre philosophie de vie à 56 ans? Comment vous abordez la vie là? Comment vous l'abordez la vie là à votre âge?
Alors, écoutez, eh ben moi, je me dis, je dois faire des projets. Il y a vraiment des coups durs dans la vie. En ce moment, ça va mieux, etc. Mais des projets, faire maintenant et ne pas remettre à plus tard ce que je peux faire maintenant. C'est-à-dire cette danse, je l'ai faite parce que physiquement, j'étais prête. J'aurais pu continuer, mais bon, voilà, j'avais fait cette expérience-là. J'en ferai d'autres. Mais c'est vrai que, je vois mon travail, j'organise souvent des tas de choses, des fêtes, tout ce qui est d'actualité, les nouvelles choses, que ça soit les breakdance, enfin des choses où on peut s'amuser. Bon, voilà,
je vous envoie un diplôme de super quincado.
Merci beaucoup, hein, Sophie, de nous avoir appelé. Le sentiment qui domine chez les quincados, c'est j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. C'est ça.
C'est ça. Vous savez, il y a un truc très souvent quand vous êtes jeune, on vous dit c'est pas encore de ton âge. Tu verras plus tard. Et à un moment donné, on vous dit c'est plus de ton âge. Et ben les quincados, c'est se dire non, ça marche pas comme ça. Ça peut être toujours de mon âge, si j'en ai envie, si je me sens dans le désir, dans l'envie. Souvent, on parle des besoins. À partir d'un certain âge, on ne parle plus que des besoins. Mais pourquoi il n'y aurait que des besoins? Il y a aussi des désirs, des envies et des capacités.
On pourrait vous rétorquer que ces quinquagénaires adolescents sont des vieux qui refusent désespérément de vieillir. Enfin, des vieux entre guillemets.
Non, encore une fois, ils savent qu'ils prennent de la maturité. Encore une fois, ce que je vous disais au tout début, c'est des gens qui peuvent se sentir jeunes, mais qui ont l'expérience en plus. Ou de certaine manière, c'est aussi des gens, vous savez, si on les compare aux bobos, on pourrait dire que ce sont des bobos qui ont le sens du tragique. Ils savent qu'à la fin, ils vont mourir, par exemple. Ils savent qu'à la fin, la vie, elle est pas toujours si simple que ça. Mais, pour autant, en attendant de mourir, je vais peut-être pas m'ennuyer. Vous savez, il y a peut-être une formule de dire, je préfère le risque des ennuis plutôt que l'ennui. Et on meurt d'ennui.
Pierre-Henri Tavoyeux, une question pour vous, question de Nicole par courriel. Est-ce que les quinquados sont les symboles d'une société immature qui refuse de vieillir?
Alors, on pourrait avoir ce sentiment. C'est-à-dire, il y a plein d'indices qui montreraient qu'effectivement, on est un peu assisté, on est un peu infantilisé, on est dans l'épanouissement permanent plutôt que dans l'accomplissement. Mais je crois que c'est la surface des choses. Quand on creuse, et ça, c'est un point très intéressant. Moi, je fais énormément de conférences sur ces sujets. Et depuis que je fais ces conférences, je pose à peu près systématiquement cette question. Est-ce que vous vous sentez adulte? Et c'est quoi être adulte? Et à quel âge vous êtes-vous senti adulte? Et on voit très bien que, en fait, les adultes, ils font le boulot. Voilà, ils font le boulot, vis-à-vis des jeunes, ils font aussi le boulot vis-à-vis des plus âgés, qui sont toujours des adultes par ailleurs. Ils sont dans l'expérience, ils sont dans la responsabilité, ils sont aussi dans la quête de soi, mais qu'on entre, vous voyez, si vous voulez, les âges de la vie, il ne faut pas les concevoir comme une sorte de jeunisme permanent, parce qu'évidemment, ça, on va se rendre malheureux. Mais il y a une phase d'adolescence, une phase où on grandit, on bascule, à un moment donné de l'existence, vers une deuxième phase qu'on pourrait appeler la maturescence. Et le projet moderne, c'est en quelque sorte que cette maturescence, elle soit presque infinie. Alors on sait qu'à un moment donné, il y aura la sénescence, il ne faut pas le nier, c'est la dimension tragique dont parlait Serge. Mais voilà, la vie humaine moderne, elle est conçue comme ça. Et c'est, je crois, une très, très, très bonne nouvelle.
Serge Guérin, les quinquagénaires, les quinquados, ce sont les maillons essentiels de l'intergénérationnel.
Oui, il y a quelque chose de singulier. Quand je parlais de ce sens du tragique, c'est aussi d'avoir des parents qui parfois vont pas bien et qu'on va aider. On s'enfuit pas, hein. C'est aussi une génération un peu pivot, une génération un peu solidaire. Et en même temps, ces personnes qui ont souvent des enfants, voire des petits-enfants, et qui savent aussi qu'il faut qu'ils soient là. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai envie de penser à ma vie, c'est pas parce que j'ai envie de la voir de manière plus joyeuse que pour autant je nie la réalité. Et donc c'est souvent des gens qui sont solides à cet endroit-là et qui sont plus en capacité d'interaction et d'intergénération.
Marie nous demande comment différencier un quinquado abouti, sincère, d'un égoïste qui ne souhaite ni accompagner ses parents ni ses enfants qui vivent des étapes ô combien importantes.
Alors
entre le pur hédoniste et puis le quinquado qui croque la vie à pleines dents, c'est quoi la comment dire la frontière
Pierre-Henri? C'est la question de la responsabilité. La responsabilité, il faut pas la concevoir comme simplement responsable de ses actes. C'est-à-dire ça, l'enfant, il sait très bien ce que c'est que la responsabilité de ses actes. Et d'ailleurs, quand il fait une bêtise, il va se cacher. Donc, il a bien compris le concept. La vraie responsabilité, si je puis dire, celle de l'adulte et c'est le critère de démarcation, c'est la responsabilité pour autrui. C'est-à-dire l'idée que voilà dans mon enfance, quand j'étais jeune, il y a des gens qui ont compté pour moi, des profs, des parents, des amis, voilà. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. Eh bien, on devient, si je puis dire qu'un cadeau, on devient adulte au moment où on se dit « c'est à mon tour ». C'est à mon tour d'être responsable pour autrui. C'est une formule de Lévinas, du philosophe Lévinas, être responsable pour. Et je crois que c'est un très bon critère de démarcation. Ça veut dire que l'idée est d'une profondeur inouïe. C'est pour pouvoir grandir, il faut que je fasse grandir les autres. Mmh. Et ça constitue, j'allais dire, la bonne autorité même de l'âge, à l'âge démocratique. Hein. C'est celle qui fait grandir à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. C'est ça la bonne autorité. Et alors c'est une grande phrase, un peu solennelle, mais dans la pratique quotidienne, c'est quelque chose de très évident.
C'est-à-dire alors, que je peux être individualiste, mais je ne suis pas égoïste. Et je peux être individualiste en pensant en effet aux autres et en me disant, je suis en effet responsable. C'est-à-dire que ce qui est arrivé jusque-là, j'ai ma part, y compris si j'ai fait des bêtises. Et aujourd'hui, j'ai aussi ma part, parce que j'ai appris cette notion d'expérience, je peux aussi la transmettre, mais pas la transmettre, je dirais, comme un vieux con d'avant. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais pas de la leçon de morale. C'est j'échange avec la personne, et d'une certaine manière, je lui montre un petit peu l'exemple.
Très bonne question de Cléa sur notre page Facebook. Je voulais savoir si ma mère possédait les symptômes, entre guillemets, du quinquado. Elle n'accepte plus la critique, elle a tendance à bouder, elle sort en soirée très souvent, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Je précise qu'elle vient de divorcer. Est-ce que ça a un rapport avec les quinquados?
Alors, le divorce peut l'être, mais alors, refuser la critique, oui. C'est finalement...
Ou de bouder, ou de sortir.
C'est un peu rester enfant. Je trouve qu'elle nous raconte plus quelqu'un qui joue presque sa gamine que quelqu'un qui est adulte, mais qui à un certain moment dit « il faut aussi que je pense à moi ».
Nathalie nous dit « j'approche tout doucement de la cinquantaine et même si mon corps ne suit plus, je me reconnais totalement dans cette nouvelle expression ». Bonjour Marie-Christine, est-ce que Bonjour. Vous êtes avec nous? Vous appelez de Bretagne. Alors est-ce que vous reconnaissez, je ne sais pas si vous êtes quinquagénaire, je n'ose vous demander votre âge.
Non, je suis même carrément sexado et je le revendique.
Ah, vous êtes sexado, alors
ça sera le tome 2.
Alors, ben moi je le suis.
Alors c'est quoi une sexado, Marie-Christine?
C'est une sexagénaire qui a gardé une âme un peu d'adolescente, mais qui en même temps est adulte parce qu'elle a réalisé sa vie professionnellement, elle a créé une famille qui est à peu près épanouie, heureuse. Enfin, donc elle peut être fière de ça et en même temps elle garde toujours cet émerveillement. Moi, je citais la phrase d'Herbert George Wells que j'aime beaucoup, qui dit en gros, on ne doit pas laisser l'horloge et le calendrier nous aveugler sur le fait que chaque moment de la vie est un miracle et un mystère. Donc moi je garde toujours cette idée-là que c'est un miracle et j'ai envie de continuer à faire la fête comme quand j'étais ado. Donc du coup, mes relations amicales se sont un peu rajeunies parce que ceux de mon âge, je les trouve un peu vieux entre guillemets, et ils sont pas dans la spontanéité, ils sont beaucoup dans la consommation, le paraître, et bon, j'aime bien fréquenter les jeunes. Donc ça, c'est mon côté adolescent que parfois on me reproche.
Serge Guérin.
C'est génial, je trouve que cette notion de miracle, l'adolescent resterait dans le mirage, et là le quinquado, le sexado, le septuado ou l'octado est dans le miracle d'une certaine manière. Cette chance incroyable de rester toujours en vie. Quand on compare avec les générations d'avant, si on remonte évidemment, c'est encore pire, se dire on a la chance d'être en forme et en vie. Et en effet, ayons envie d'être en vie, justement, comme dirait l'autre, quoi. Et on continue d'en faire quelque chose pour soi, mais aussi pour les autres.
Marie-Christine, ce qui caractérise souvent les quinquados, les sexados, les septuados, c'est peut-être d'avoir des projets, de se dire que le champ des possibles est ouvert, qu'il s'élargit. C'est votre cas?
Tout à fait. Je suis toujours en train de réfléchir, de penser à ce que je vais pouvoir écrire, faire, réaliser, organiser, rassembler. J'adore rassembler, fédérer, ça c'est mon truc aussi.
Merci beaucoup Marie-Christine de nous avoir appelé. Serge Guérin, quand on devient quinquado ou sexado, c'est souvent le temps de la réinvention et du changement de vie.
Complètement, c'est un moment de se dire, alors, est-ce que je vais faire ma vie comme avant ou la même tout le temps? Et c'est aussi la vie parfois qui vous y oblige. Par exemple, dans l'entreprise, très souvent, dès 45 ans, on vous dit, bon... maintenant, voilà, t'es plus bon pour les technologies ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, vous vous dites, j'ai intérêt à me bouger moi-même parce que sinon, on va me mettre de côté, par exemple. Ça peut être dans la vie personnelle. À un moment donné où, par exemple, les enfants commencent à grandir, se dire si on est en couple, qu'est-ce qu'on va reconstruire en couple si les enfants s'en vont? Ou si on a un moment où on sépare ou tout ça, se dire comment je reconstruis la suite de ma vie? C'est réinventer la suite de ma vie sans nier la première partie, mais en disant que là, il y a une deuxième mi-temps, il y a un autre moment qui n'est pas la négation du premier, mais qui est de se dire, et si je pensais un peu plus par rapport à mes propres désirs plutôt qu'en fonction de ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Vous savez, c'est un peu cette notion, j'ai coché toutes les cases. J'ai fait telle formation. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, moi j'ai fait comptabilité parce que mes parents m'avaient dit que c'était plus sûr. Mais en fait, ça m'ennuyait. Et là, j'ai la cinquantaine, j'ai levé les gosses, j'ai remboursé mes emprunts, je pense plus à moi et du coup, je refais une formation. Qui va monter une librairie? Qui va, moi je connais un peu le monde du chocolat, qui va créer sa pâtisserie, ainsi de suite. C'est-à-dire refaire un CAP par exemple, c'est-à-dire refaire toute une formation extrêmement longue, mais pour faire quelque chose qui a du sens par rapport à mes envies.
Pierre-Henri Tavoyer.
Oui, je pense vraiment il y a une notion qu'on utilise aujourd'hui avec un peu de contresens, c'est celle que je disais tout à l'heure, le démon de midi. C'est très, très intéressant comme formule. Le démon de midi, c'est le démon qui... Alors ça ne concerne pas que les hommes d'abord, c'est celui qui... C'est un démon qui touche les moines au moment le plus chaud de la journée. Vous voyez, au moment où on vient de manger, et puis une espèce de lourdeur, et puis d'ennui qui apparaît. Le démon de midi, c'est le pire des démons, parce que c'est pas celui qui attise le désir, c'est celui qui tue le désir. Et on se dit, à quoi bon? Et vous voyez, pour le moine, c'est celui qui se dit, à quoi bon être moine? Peut-être que Dieu n'existe pas. Et ça, ça met un souk dans les monastères qui est absolument terrible. Donc, le démon de midi, c'est ce moment où, effectivement, du dégoût, de la nausée au sens philosophique. Et alors dans les règles monastiques en général, on suggérait de faire une bonne sieste parce que les choses repartaient après et voilà.
Mais la sieste post-pandriale.
Voilà, exactement, qui est une manière de sortir de cet état de torpeur. Mais pour l'existence, il en va un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit mais à quoi bon tout ça? Encore une fois, j'ai réalisé tous mes rêves ou en tout cas mes rêves d'enfance. Si j'ai pas réalisé mes rêves, je suis un raté parce que je ne les ai pas réalisés. Si je les ai réalisés, n'y a plus rien à espérer. Donc, je suis dans une situation de crise du milieu de la vie. Et donc, pour la suite, c'est une reconfiguration. Voilà, on reprend en main et avec souvent des projets qui nous appartiennent. Ce n'est pas les projets des parents, ce n'est pas les projets du rêve de la jeunesse, c'est des projets qu'on reconstruit avec réaliste, avec lucidité. Tout n'est plus possible. Personnellement, je voulais être footballeur quand j'étais jeune. Saint-Étienne. Je me suis aperçu progressivement que c'était beaucoup plus intéressant d'être philosophe. Pourquoi? Parce qu'à 50 ans ou un peu plus de 50 ans...
Ça dure plus longtemps déjà.
Bah, oui, je suis un très jeune philosophe, alors que je serais un très très vieux footballeur. Et donc j'ai encore... une carrière qui m'attend pour le très long terme.
Tiens, question personnelle, vous êtes quinquagénaire, Serge Guérin. À quel rêve avez-vous renoncé? La crise du milieu de vie, c'est le moment des renoncements et puis aussi des renaissances. Mais il y a des rêves auxquels vous avez renoncé?
D'avoir une énorme crinière blonde, par exemple.
C'est vrai que pour ceux qui ne vous voient pas, vous êtes... vous êtes complètement chaud. Comme moi d'ailleurs.
Oui,
voilà. Violette nous dit à propos des quinquados, le mot n'est pas trop beau. Alexis HK nous appelle les vieux Jones. Il s'agit de se dire que la vie n'est pas finie, la vie de plaire, la vie du plaisir, la vie pour encore apprendre à goûter. J'ai appris tout ça dans les bras d'un amoureux qui avait 17 ans de moins que moi, un amoureux qui m'a offert un deuxième 17 ans. Et puis Lola nous demande, est-ce que le phénomène des quinquados est inhérent aux sociétés occidentales? Est-ce qu'il se retrouve ailleurs? Pierre-Henri Tavoyou.
C'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire que pour une part, l'ailleurs, c'est vaste, hein, donc il faut arriver à définir, mais il me semble malgré tout qu'il y a une sorte de convergence sur la question des âges. Si on part de la coupure entre société traditionnelle et société moderne, société traditionnelle, c'est l'âge qui nous fait, société moderne, nous pouvons faire ou ne pas faire notre âge. D'une certaine façon, la mondialisation représente aussi une formidable convergence sur ce sujet, et nous avons tendance de plus en plus, aussi avec l'industrie culturelle, à vivre des âges au même rythme, c'est-à-dire au rythme de l'individu.
Il faut prendre juste en compte que, par exemple, en Afrique, l'espérance de vie n'est pas la même. Donc évidemment, quand vous êtes dans un pays où l'espérance de vie est autour de 50 ans, la notion de quinquado n'est pas tout à fait pareille. Et puis, il faut prendre en compte, de manière plus générale, qu'il y a des différences sociales fortes. Par exemple, il y a un écart d'espérance de vie de 13 ans pour les hommes entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres en France. Donc par exemple, la question sociale, elle reste bien sûr présente. Mais la question culturelle de se dire « mon possible », en effet, c'est la marque d'une société moderne. Et cette modernité, elle avance pas toujours de manière régulière, il y a aussi des reculs, mais elle avance dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de continents. Et là où elle avance, c'est une des démonstrations de la conquête d'autonomie de chacun.
Marie-Robert, quelle réflexion philosophique vous inspire cette histoire de quinquado, vous qui en êtes très 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 loin?
Est-ce que c'est une trentado? C'est ça qu'il faudra se poser
mais
comme question.
Pas, elle est vingtenaire, Marie-Robert.
15 ans.
Une quinzado.
Exactement, j'ai 15 ans. Voilà, je suis ado.
Alors, comme à 15 ans, elle fait moins de 15 ans.
Quinzado, c'est un peu une tautologie.
Oui, là, complètement. Là,
c'est... Merci beaucoup, ça.
Eh bien, justement, je vais vous parler. Ali, connaissez-vous le petit livre rouge des écoliers et des lycéens?
Ah non, pas du tout, non.
Eh bien, voilà, je vais vous en parler aujourd'hui parce que publié en 1969, l'ouvrage, écrit par deux professeurs et psychologues danois, Bo Dan Andersen et Soren Hansen, fête lui aussi ses 50 ans. Donc un livre voilà, tout à fait approprié. Évidemment écrit dans le contexte des mouvements sociaux de 1968, il s'inspirait du petit livre rouge de Mao. Alors au programme, on est dans de la pensée libertaire, bien entendu. Il incitait les jeunes à ne pas respecter les normes, une incitation à l'action, à l'autonomie, au refus du pouvoir abusif. Mais réparti dans différents chapitres, on a l'enseignement, les profs, les élèves, le système. Il posait des questions comme « à quoi servent les cours ?» Pourquoi s'ennuie-t-on? Donc, bon, évidemment. Et apportait surtout beaucoup d'infos sur les drogues, le sexe, la contraception. Bien entendu, il fut interdit en France et dans de nombreux pays. Et surtout, il commençait par cette phrase culte « Tous les adultes sont des tigres de papier ». Raison pour laquelle il ne fallait pas les craindre. Donc je me dis que ça pourrait tout à fait devenir une bible pour les quinquados, un livre culte pour rappeler deux, trois impératifs.
Merci beaucoup Marie-Robert et je signale la sortie de votre livre, hein, Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants, c'est chez Flammarion. On peut vous retrouver en vidéo sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Allez, si vous vous sentez quinquado ou si cette notion vous agace prodigieusement, un seul numéro, 01 45 24 7000. Duarte interprété Flore de Sonio. France Inter.
grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
11h15 et on s'intéresse ce matin au quinquado avec le sociologue Serge Guérin et le philosophe Pierre-Henri Tavoyau.
Non mais je sais pas si t'es au courant, Philippe, mais t'as une femme et des enfants. T'as plus 20 ans.
Ah bah si, j'ai 20 ans. Figure-toi. Ouais. C'est mon corps qui a vieilli. Mais tu vois, moi, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. Tu comprends ça? T'as peur de ce que je suis devenu. Un homme libre. Un insoumis. Un insurgé. La chrysalide devient papillon. Tremblez, bourgeois, tremblez. Qu'est-ce qu'il y a?
Je crois que c'est ta femme, là.
Allô? Oui, Poupounette, oui. Pas trop quick, la baguette, d'accord, mon amour. D'accord, d'accord.
Extrait du film Le Grand Méchant Loup en 2013, Serge Guérin, je rappelle que vous publiez donc Les Quinquados. Quel est le rapport au corps du quinquado? Quel est son rapport au corps?
Alors, c'est intéressant aussi parce que justement, comme c'est pas un faux jeune, c'est pas quelqu'un qui dit « Ah, je suis jeune !» C'est quelqu'un qui se dit « J'ai un capital d'une certaine manière et j'ai intérêt à le maintenir pour les 30 ans qui viennent. Mmh. » Donc je peux le maintenir en termes intellectuels, refaire des formations, ainsi de suite, et en termes physiques. C'est le moment où peut-être, si j'ai pas trop fait attention, c'est étonnant le nombre de gens qui me disent ouais, je commence à faire un régime. Je commence, tu vois, le bio par exemple, c'est une catégorie de population qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Des gens qui disent à 50 ans, on a décidé avec les copains ou avec les copines, l'année prochaine, on fait le marathon ensemble ou des choses comme ça. C'est-à-dire se donner les moyens de rester en forme, avec le plaisir aussi parfois de pouvoir le faire avec ses propres enfants. Ce que j'ai fait le semi-marathon avec ma fille. Avec ce plaisir un petit peu de se dire on démarre ensemble, il y a évidemment un écart d'âge assez conséquent, mais c'est aussi le plaisir de participer à des choses avec des générations très différentes.
Est-ce que votre fille vous a mis une tannée?
Non, je suis arrivé largement devant elle, mais je m'entraînais depuis longtemps.
Beaucoup de quinquados que vous avez interrogés dans votre livre vous disent qu'ils sont en meilleure forme qu'à 30 ou 40 ans.
Oui, parce que ne serait-ce que quand vous regardez des gens à 30 ans qui tous les soirs sont en train de boire leurs 4 bières, et qui font surtout du sport en regardant la télévision et le football, c'est vrai qu'ils prennent un peu des risques. Des gens qui, autour de la cinquantaine, se disent « il faut que je baisse un petit peu de poids, ainsi de suite, il faut que je m'organise, et j'y prends plaisir ». C'est ça qui est marrant. Des gens qui vous disent « mais ça me fait du bien, dans la tête comme dans le corps ». Et notre philosophe national nous dira sans doute que, contrairement à Descartes, je crois que c'était Spinoza, qui était un peu le corps et l'âme, en quelque sorte, ça a des liens.
Pierre-Henri Tavoyau.
Il y a une belle image dans la philosophie antique qui consiste à dire le sage est celui qui sculpte sa propre statue. Alors pour les Grecs, la statuaire est un art qui enlève par rapport à la peinture qui est un art qui ajoute. Et donc sculpter sa propre statue, ça veut dire qu'il y a déjà la forme dans le bloc de marbre et qu'on doit enlever le superflu. Et donc ça c'est une idée très profonde parce qu'on va retrouver la quintessence et c'est en ce sens que l'âge n'est pas perçu comme un déclin ou comme un naufrage systématiquement, il peut l'être aussi quand même, mais c'est aussi
si, quand même un peu
quand même malgré tout, mais c'est aussi sur le plan existentiel un approfondissement et une quintessence. Ça c'est un point important. Et alors de ce point de vue-là aussi, il faut aussi regarder le marché des produits anti-âge et des cosmétiques. Et un truc très intéressant là-dessus, c'est que les marchés se situent, de ce point de vue-là, dans une logique qui est la logique du deuil. Je suis en train de perdre ma jeunesse. Et on remarque que le deuil comporte toujours quatre phases. Il y a une première phase qui est la phase du refus.
Déni.
Deuxième phase qui est une phase de la colère. Troisième phase qui est une phase de l'acceptation. Et quatrième phase qui est une phase de la négociation et de l'acceptation. Et en fait, les marques se positionnent, comme on dit mal aujourd'hui, sur un de ces secteurs. Est-ce qu'on va dire « non, je ne suis pas vieille », parce que ça concerne, ou « non, je ne suis pas vieux », ou est-ce qu'on va dire « bon, j'accepte un peu les choses ». Et avec cette grille d'analyse, vous avez un panorama du rapport à l'âge qui est assez spectaculaire, et c'est vrai que la notion de quinquado permet aussi de rentrer dans cette logique, peut-être du côté de négociation-acceptation, plutôt que colère et déni.
Qu'est-ce que ça veut dire, Serge Guérin, bien vieillir, quand on arrive à la cinquantaine?
Alors, c'est marrant, cette notion de superflu, elle participe de ça. Beaucoup de gens se disent, mais est-ce que j'ai encore besoin de ça? C'est-à-dire que c'est aussi, j'enlève des choses, j'enlève du poids, mais j'enlève aussi des éléments.
C'est ça, bien vieillir?
C'est un des éléments, c'est j'enlève certaines normes, il faut faire ça. Mais non, si j'ai pas envie. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, bien vieillir, c'est la notion du lien. Alors, c'est l'estime de soi. Bien vieillir, c'est se sentir autonome et se dire, c'est toujours moi qui décide de ma vie, on va pas m'imposer parce que j'ai tel ou tel âge. Vous savez, l'être humain, c'est pas un yaourt, il n'y a pas une date de péremption sociale, quoi, d'une certaine manière. C'est pas parce que j'ai 50 ans et un jour que je devrais m'interdire d'être amoureux, que je devrais m'interdire de préparer un grand voyage, que je devrais m'interdire de faire telle ou telle course, et ainsi de suite. Bien vieillir, c'est s'autoriser à être soi, d'une certaine manière.
Christiane nous dit sur notre page Facebook que ma mère m'a dit le jour de mes 50 ans, j'espère maintenant, ma fille, que tu ne vas plus faire de bêtises. surprise. J'étais très sage, je ne sortais jamais, divorcé, j'étais seul depuis des lustres. Depuis, je l'ai écouté. Aujourd'hui, j'ai 69 ans et je ne fais plus la bêtise de ne rien faire. Je sors, je vais au concert, je m'éclate et je suis en train de mettre sur pied des projets, chose que je n'aurais jamais faite avant. Merci maman, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, mais ça m'a réveillé. Pourquoi vouloir ranger des gens, les gens dans des cases et surtout lorsqu'on vieillit. Alors vous, Antoine Lee, vous êtes le grand reporter de l'émission, vous n'êtes pas du tout concerné par notre sujet.
Pas du tout.
Et vous avez rencontré des quinquagénaires très très actifs. Hein.
Ouais, ils s'appellent Lisa, Irani et Gérard. Ils ont passé la cinquantaine, la soixantaine sans encombre, bien au contraire. Ils se sont rencontrés grâce au site quintonique.fr qui leur propose de se rencontrer régulièrement autour de différentes activités. Et quand je les ai vus, ils portaient de drôles de chaussures aux pieds. Ils avaient aussi une grosse boule à la main. Ils étaient en train de jouer au bowling.
C'est bien dommage, mais elles n'ont pas toutes tombées. Il reste 4 quilles.
Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on dise qu'à partir de 50 ans, on est vieux?
Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de 50 ans? 50 ans, on est jeune. On est jeune quand on a la pêche, quand on est comme je suis, moi. Et j'ai fait tout pour que ça soit bien, pour vivre la meilleure journée de ma vie aujourd'hui. J'adore tout. Tout est beau pour moi. Alors, donc, je vois le beau partout. Je profite de tout ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous courez après votre jeunesse?
Jamais de la vie. Non. Je vis beaucoup mieux maintenant que quand j'avais 20 ans. Beaucoup mieux, mais 1000 fois, 1 million de fois mieux. C'est là maintenant qui est bien.
Pourquoi vous dites que vous avez une meilleure vie aujourd'hui qu'à 20 ans?
Parce que maintenant, j'ai rien à foutre de ce que dira-t-on. C'est ça, il y a beaucoup de ça aussi, voilà. J'ai plus rien à prouver. Et là, maintenant, c'est à mon tour. Je retourne. Là, elle est belle. Regardez ça. Ah, il reste 2 quand même. Je ne suis pas assez concentrée avec le journaliste à mes côtés.
Ah, pardon, c'est de ma faute.
Mais non, au contraire, j'aurais aimé avoir plein et plein de flashs. Youpi.
T'assieds pas sur mes genoux, hein.
Ah bon?
Faut pas s'asseoir sur les genoux de monsieur, hein.
Oh zut, j'ai failli le faire.
C'est parce qu'il aimerait bien qu'on s'assoie sur ses genoux, c'est pour ça qu'il dit « Ne vous asseyez pas sur mes genoux, surtout !» Avec envie, tiens, déjà, il m'embrasse.
Gérard, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un vieux jeune?
Un vieux jeune, oui. De toute façon, la jeunesse, c'est que dans la tête, hein, de toute manière. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout vieux à 50 ans. On est vieux maintenant à quel âge? À plus de 80 ans. On commence à être vieux à plus de 80 ans, mais c'est tout. Je pense que les gens, c'est dans la tête, parce qu'à partir du moment où ils disent « Oh, on a 50 ans », tout de suite, c'est le truc demi-siècle, on est vieux, machin. Ben non, il y a autre chose à faire.
À moi de jouer, j'essaye de faire correct.
Là, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie, on peut dire ça pour vous?
Moi, je vis ma vie aujourd'hui.
Ça veut dire que vous ne la viviez pas avant?
Non, pas du tout. Je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu une vie, mais aujourd'hui, je vis ma vie. Grand déplaisir de certaines personnes autour de moi en disant voilà, il est minuit, tu rentres à cette heure-là toute seule dans la rue à minuit. Ben oui, à 1h, 2h du matin, il n'y a pas de problème.
Pourquoi vous ne pouviez pas le faire avant?
Des obligations familiales. Le renouveau en 2012, le divorce qui était la joie de vivre aujourd'hui.
En quoi ce divorce était une bonne chose?
C'était ce qui était en moi avant, mais que j'ai étouffé pendant des années. Il me reste peu de temps à vivre et je veux les vivre entre les voyages et les sorties avec les amis.
Là, vous ne voulez plus vous prendre la tête aujourd'hui?
Prendre la tête. Plus me prendre la tête, pas du tout.
Ali, dans 20-30 ans, lorsqu'on sera concerné, on pourra faire une petite partie de bowling. Et pour ça, on peut aller sur le site de Grand Bien Vous Fasse, sur la page de Grand Bien Vous Fasse. On fait le lien sur le site des quinquas qui sont toniques.
Reportage signé Antoine Lee et nos chers techniciens Michel Bézikian et Pierre-Yves de Rolin ont écouté avec beaucoup d'attention votre reportage. Commentaire autour de la table, tiens, Serge Guérin.
C'est que du bonheur et je trouve que... La formule de cette dame de dire je faisais la vie et maintenant je vis ma vie, c'est ça être un quinquado. C'est à un moment donné de se dire j'ai fait un petit peu ce que je devais faire ou ce qu'on m'avait dit que je devais faire et là finalement j'y repense autrement et je pense plus à moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire je nie les autres, c'est-à-dire que je pense à moi.
Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, c'est vraiment toujours la même réflexion, c'est-à-dire que nous avons une vie longue, 80, mais en fait en y réfléchissant, on passe très peu de temps à la vivre. Ça c'est le problème philosophique classique et donc pour le problème n'est pas tellement qu'on meurt tôt, c'est justement d'arriver à vivre cette vie et que ce soit en effet la vie de l'individu.
Serge Guérin, sur le marché très concurrentiel de la séduction, comment s'en sortent les quinquados que vous avez pu rencontrer ?
Ben, ils s'en sortent plutôt pas mal, parce que encore une fois, alors le quinquado, femme ou homme, le but c'est pas nécessairement d'avoir, il faut, vous savez, le truc un peu ridicule, par exemple des hommes très très prétentieux. Oui, j'ai échangé ma femme de 50 contre deux de 25, ce qui est prétentieux, ridicule, et puis qui ne fonctionne pas très très bien, et gougnafier. Enfin, il y a tout, mais c'est pas ça. C'est simplement des gens qui disent, à un moment donné, je suis plus dans les mêmes normes. Alors des femmes m'ont dit, beaucoup m'ont dit, et puis tu sais, le truc est quand même génial, ou vous savez, le truc est génial, c'est que je fais l'amour sans inquiétude par rapport aux enfants, par exemple. C'est-à-dire que il y a aussi une liberté différente parce que je suis plus dans un moment de ce risque-là, par exemple.
Isabelle nous dit, quel bien vous me faites, enfin l'émission, je suis dans ma voiture et je me délecte de chacun de vos mots. Vive la vie, vive l'épanouissement et le plaisir exacerbé de la cinquantaine. Bonjour Guy, on termine avec vous, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour à tous. Et un point que je souhaitais évoquer, c'est aussi la perte de valeur par rapport au travail. Mmh. On a travaillé toute sa vie, de très nombreuses années, de très nombreuses heures par jour, et il y a une perte de valeur, un manque de sens à la vie, et c'est pour ça que je pense qu'après on veut profiter au maximum, et surtout en n'étant pas égoïste, c'est-à-dire en donnant aux autres, soit par le milieu associatif, soit auprès de ses amis.
Très intéressant ce que nous dit Guy Serge Guérin.
C'est, encore une fois, c'est la question du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux rester dans le travail, mais simplement, je cherche à ce que ce travail donne du sens. Les gens qui m'ont dit, j'ai été dans la banque, et vous comprenez, ok, j'ai gagné ma vie, mais ça servait à quoi? Et là, je me retrouve, encore une fois, je reviens à mon master, directeur des établissements de santé, et là, d'un seul coup, je vais aider des gens en fragilité. Et c'est ça, la demande, c'est ça. C'est question de pouvoir là aussi aider les autres, mais s'aider soi-même.
Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyou. Le titre de votre dernier livre ?
Comment gouverner un peuple roi.
D'actualité. Merci beaucoup Serge Guérin. Votre nouveau livre, Les Quinquados, vient de sortir chez Calman Lévy. Je vous rappelle que ce soir à 20h, notre cher camarade Mathieu Vidard et le neurologue Lionel Nakache vous attendent à la troisième conférence du cycle cerveau, qui sera consacrée ce soir au mystère du sommeil. La conférence se tiendra au studio 104 de la Maison de la Radio, et dans 139 salles de cinéma partout en France. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter et sur maisondelaradio.fr. Demain, on s'intéresse aux héros de fiction et de la vie réelle, qui sont des modèles qui nous aident à vivre, comme les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame. Qui sont vos héros, réels ou fictifs? 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Michel Bézikian et Pierre-Yves Derolin, de Genot, avec nous ce matin.